Et bien sûr, dans notre société, nous n'avons pratiquement plus ce concept. Je mets décision d'ailleurs entre parenthèses. Ce n'est pas par suicide, entendons-nous bien. Cette décision de mourir, elle peut encore être vue chez des traditions beaucoup plus archaïques, notamment chez les Amérindiens, où les ethnologues ont bien relevé le fait que des personnes âgées, des vieux, quand ils sentent la mort s'approcher, ils font venir de partout leur parentèle pour qu'ils viennent se réunir. Et puis, quand ils sont tous là, il y a un cérémonial pour l'adieu, et à chacun, il dit encore une chose. Et quand il a dit adieu à tout le monde, quand il a donné son héritage spirituel, eh bien, il se retire dans sa tente et il meurt. Et il meurt dans les heures qui suivent. Et chez nous, moi, je l'ai vu seulement, en fait, après coup, par exemple, les parentés qui m'ont raconté par rapport à quelqu'un qui est mort abruptement, combien ces personnes ont eu une intuition de leur mort qui venait, comme si quelque chose en eux savait qu'ils allaient mourir. Et donc, ils avaient entrepris, par exemple, des actes notariales, ils avaient entrepris encore une mise en ordre de leur vie pratique. J'en ai rencontré une jeune femme dont le mari est mort par un accident de moto. Elle a trouvé son bureau nickel propre alors que c'était un homme bordélique. Donc, ces événements nous frappent comme si la personne savait, alors que c'était une mort attendue de personne. Il n'y avait aucune préparation. Et donc, nous, de là, je me suis dit, mais nous savons, quelque chose en nous sait que nous allons mourir, alors que notre tête, évidemment, on n'en sait rien. Et puis, la plupart des gens, quand même, rencontrent cette décision, entre guillemets. Alors, ils rencontrent que quelque chose en eux a décidé de mourir par la maladie mortelle, par une annonce, un diagnostic d'une maladie grave. Voilà, ça serait cette opposition donc, de la première étape avec le naissant qui, lui, se retourne dans le ventre, comme pour dire « ça y est, j'y vais ». Maintenant, il y a une grande différence. Si 97% des naissants, des fœtus, se retournent automatiquement et que 3% sont dans le siège, je crois, en fin de vie, c'est juste l'inverse. Nous sommes, quand nous avons une annonce d'une maladie extrêmement grave, eh bien, 97% vont être en siège, et ça veut dire, en reculant, vont s'opposer, vont dire « non, j'y vais pas », et que, je dirais, 3%, et peut-être c'est même encore beaucoup, qui diront « d'accord, j'y vais ». Et donc, nous voyons déjà une fondamentale différence entre le début du processus, celui qui va vers la naissance, qui va vers la vie sur Terre, ou bien celui qui va une vie au-delà de la Terre. Je l'appellerai comme ça. Puis, je continue hein?
Oui, mais peut-être brièvement plus court.
Alors, donc la deuxième phase, qui chez le bébé, bien sûr, vous savez tous, vous qui avez accouché, vous l'avez vécu avec, c'est cette phase des contractions non expulsives, le long couloir du ventre, et où le bébé a des immenses efforts pour rejoindre la sortie. Il a un seul choix, c'est aller avec ou aller contre. Alors, aller avec, c'est, il réalise qu'il a moins mal s'il va avec les contractions que s'il se braque contre les contractions. Et de l'autre côté de la fin de vie, ce long couloir des contractions, nous le retrouvons aussi. En fait, c'est les contractions des pertes fonctionnelles. Quand, morceau par morceau, le corps fout le camp. Quand la personne va vivre la diminution de ses forces, les organes défaillants, les fonctions qui se détraquent. Et moi, j'appelle ça les montagnes russes ou les montagnes russes de l'espoir et du désespoir. C'est une phase extrêmement difficile où, si vous connaissez les étapes de Kubler-Ross, ça correspond à toutes ces phases de la révolte, du marchandage, de la dépression, et rebelote, espoir, révolte, etc. Les peurs, c'est le monde tourmenté des émotions pendant ces contractions de la fin de vie. Puis nous arrivons au point de blocage chez le bébé qui sent, donc l'utérus, le col de l'utérus s'est ouvert, mais il est ouvert de manière que le bébé doit forcer ce ventre. Il doit passer en force en prenant aussi le risque de déchirer ce ventre. Et alors il se trouve devant un immense dilemme, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'étape de l'héros, héroïque, parce qu'il doit sacrifier ce qu'il a le plus cher au monde, c'est-à-dire son univers, l'utérus. Et bien sûr, il recule. Et alors, même que la mère pousse avec toutes ses forces, il est devant cette opposition, maman pousse et en même temps le ventre le retient. Jusqu'à ce qu'il prend la décision, parce qu'il frôle la mort, il faut que je passe pour sauver ma vie. Donc, de l'autre côté, avec la mort, nous avons aussi des points de blocage. Que peu à peu, donc, le corps a diminué. Donc, nous nous trouvons, à la fin de ce long couloir des pertes fonctionnelles, nous nous trouvons avec un corps laminé, un corps qui est tombé en ruine pratiquement. Et encore, on s'accroche, on ne veut pas lâcher, parce que là, il s'agit aussi de sacrifier le tout pour le tout. Et en fait, il s'agit là non pas le ventre qu'il faut sacrifier, c'est le moi. Le moi qui s'identifie encore à « mais je suis encore celui-ci ou celle-là ». Et ça va coincer sur une chose, encore un contrôle des sphincters, ça va coincer sur un rôle auquel on tient. Par exemple, une mère qui a des petits-enfants, mais elle ne va pas pouvoir lâcher ce rôle. Et donc, ça va être la lutte incroyable, acharnée, jusqu'à ce que la douleur est trop forte, il faut, et elle va lâcher. Donc, les points de blocage, c'est aussi, il faut sacrifier ce qu'on a le plus cher, l'identité du moi. Cette identification à des rôles que nous nous sommes mis durant la vie, comme des vêtements. Et puis, bon, il faut enlever le dernier vêtement encore et le lâcher pour passer tout nu, comme le bébé, en effet. Donc, en quatre, nous avons la sortie. La sortie du ventre chez le bébé, qui est faite de deux choses. D'un côté, il y a un immense soulagement par cette liberté gagnée. Et de l'autre côté, il y a la rencontre douloureuse avec les paramètres de la terre. Le froid, l'air, la lumière, enfin tout qui est, c'est très violent pour cet enfant. Et de l'autre côté, la sortie de cette identification, ça va être la sortie de son identité, je suis celle et celle, celui-ci. Et on va sortir du moi, et ça va aussi être une libération. Vécu, on le voit chez les mourants, qu'ils peuvent se tourner vers le mur, où ils rentrent, à partir de là, en fait, c'est l'agonie qui commence. Et dans cette première phase de la sortie, il vit un soulagement d'avoir enfin lâché cette lutte, mais il va rencontrer maintenant autre chose, non pas les paramètres terrestres, mais il va rencontrer tout le monde psychologique en force, c'est-à-dire de ceux qui restent.